Donc la thématique de la journée, qui est un tout petit peu artificielle, hein, puisqu'il s'agissait de réunir une invitation que j'avais faite à Nicolas Duvoux il y a quelques temps déjà, dont les travaux sont très éclairants, notamment pour nos étudiants de master, et puis la présentation de ce livre sur la citoyenneté qu'on avait édité il y a déjà quelques temps. Mais en même temps, une thématique s'est imposée assez facilement, puisqu'on va traiter de cette question-là tout au long de l'après-midi. Et la thématique, ce sont les conditions sociales et subjectives de possibilité de la citoyenneté, puisqu'on pense souvent à la citoyenneté comme un statut acquis, qui va de soi. Et bien, au fond, l'interrogation de la journée, ça va être à quelles conditions devient-on citoyen ? À quelles conditions est-il possible de se penser en tant que citoyen ? C'est d'ailleurs plutôt la deuxième question, la deuxième formulation de la question que va aborder donc Nicolas dans sa présentation, au prisme notamment des inégalités sociales face au temps, face à la capacité de se projeter dans l'avenir, qui est la thématique centrale de son ouvrage « L'avenir confisqué, inégalité de temps vécu, classe sociale et patrimoine ». Je dis juste un mot d'introduction sur Nicolas pour que vous sachiez tous du lien, même si enfin, je pense que pas mal d'étudiants, notamment dans le master vulnérabilité, ont eu l'occasion peut-être de croiser ses travaux. Donc Nicolas Duvoux est professeur de sociologie à l'université Paris 8 Saint-Denis et c'est un spécialiste depuis très longtemps de la question de la pauvreté en France. Il a fait une enquête très importante sur le rapport des RMistes à ce dispositif d'action publique et plus globalement à l'insertion. Et il a mis notamment l'accent sur l'autonomie des assistés, en même temps qu'à la dépossession de leur autonomie par les politiques publiques qui tendent au contraire à les assigner dans un statut voilà, de dépendance. Et puis par la suite, voilà, il a abordé la sociologie des politiques publiques, la sociologie des politiques sociales. Et donc aujourd'hui, voilà, il produit cette enquête très importante sur, enfin, qui est une enquête qui articule des méthodologies quantitatives, mais aussi des regards plus qualitatifs. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle le quanti-quali, une hybridation des méthodes qui est très importante aujourd'hui. Et dont il va nous présenter quelques, voilà, quelques résultats. Donc je lui laisse la parole et je le remercie encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui.
Il y a un ouvrage, c'est ça ?
Que j'ai fait circuler du coup pour les étudiants aussi.
Merci, on mettra également des extraits sur le site.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Federico. Merci, Frédéric. Merci, Milena Dojceva, pour votre invitation à donner cette conférence et cette présentation. Je voudrais compléter, parce que la brève présentation pour laquelle je te remercie, Federico, ce que tu as dit voilà, reflète parfaitement les différents engagements de recherche que j'ai suivis au cours de mes différents travaux. Mais je voudrais vous dire d'abord un point d'auto-présentation qui va, j'espère, pouvoir vous permettre de comprendre le lien ou un des liens que j'essaye d'établir entre l'action publique, la lutte contre la pauvreté telle qu'elle est institutionnalisée et le travail de sciences sociales et la relation étroite qui peut exister entre les deux. C'est vraiment sur cet aspect-là que je voudrais concentrer mon propos et donc déployer l'argumentation et la démarche de ce dernier ouvrage, « L'avenir confisqué », qui effectue une sorte de déplacement d'orientation et de thématique, puisque c'est bien la question de la compréhension des inégalités en tant que telles qui m'intéresse, plutôt que tel ou tel dispositif de lutte contre la pauvreté ou la pauvreté elle-même, ou, disons, ces zones de l'espace social marquées par la vulnérabilité. L'idée, c'est vraiment plutôt, et c'est le titre l'indique, c'est de procéder à une requalification d'ensemble de ce qu'on appelle inégalité, et du coup peut-être aussi richesse, peut-être aussi pauvreté, et peut-être aussi au milieu ce qu'on appelle les classes moyennes. Donc de proposer un regard différent, de manière à éclairer l'action publique et à proposer, on pourrait dire, une intelligence pour les pouvoirs publics ou un savoir d'État qui soit plus en phase avec les réalités, avec les réalités de terrain. Donc juste un élément de, encore une fois, d'auto-présentation. Je suis professeur de sociologie à l'Université Paris 8, ce qui est mon métier. Mais depuis plusieurs années, j'exerce des fonctions de conseil ou de direction scientifique auprès des ministères qui sont en charge de la conception et de la mise en œuvre de ces politiques de solidarité. Et au titre de ces missions, j'ai été nommé l'an dernier président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui est donc un haut conseil placé auprès du Premier ministre et qui fait des rapports, des analyses, des recommandations sur ces sujets. Et donc, et je pense que c'est très important de vous le dire, dans ma pratique des sciences sociales, et ça c'est peut-être pas quelque chose qui est si courant pour les uns et les autres, parce qu'on se parle souvent et heureusement entre nous, mais je suis amené à parler de manière extrêmement régulière avec des gens qui ne sont fondamentalement pas d'accord avec ce que peuvent être les constats, les analyses, le point de vue que la sociologie et les sciences sociales ont sur le monde qui nous entoure, et qui peuvent être amenés à prendre des décisions qui façonnent, qui organisent, qui construisent ce monde. Et donc je voudrais partir de là, partir de cette mise en situation de la sociologie. J'espère, si je déborde pas le temps, que ce sera le point d'arrivée de la présentation, mais pour dire que c'est vraiment dans cette confrontation-là qu'est née la problématique et la question de recherche qui a nourri l'ouvrage. Donc cet ouvrage, tu l'as présenté, je t'en remercie, il est paru à l'automne dernier. Et fondamentalement, il y a une question qui m'apparaît centrale et qui est en fait une question pour la sociologie, pour les sciences sociales, mais aussi pour le débat public. Et cette question, elle peut se résumer très simplement dans... Alors, je ne sais pas si du coup... Ah non, c'est... Je vis mentalement dans mon ordinateur, mais en fait, vous êtes sur celui-là. Donc, la question de recherche qu'adresse le livre, elle se résume dans la confrontation de ces deux images. Et ces deux images, elles disent quelque chose qui est en tension, voire en contradiction. Première image, si vous permettez que je me lève, va vous donner la réalité objective de l'évolution de la pauvreté et des inégalités en France, telle que mesurée par l'INSEE, donc le grand institut de statistiques et d'études économiques. Et sur l'ensemble des indicateurs qui mesurent les inégalités, la pauvreté dont on dispose, on peut faire deux constats simples. La pauvreté et les inégalités sont beaucoup moins élevées qu'il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années. Et si on compare la situation de la France à l'Allemagne, au Royaume-Uni, aux grands pays qui nous entourent, selon ces mesures des inégalités monétaires, eh bien, la France est un des pays qui s'en sort le mieux à l'échelle européenne. C'est un des pays qui, de manière absolument vraie, factuelle, parvient le mieux à lutter, à corriger ces phénomènes grâce à une intervention publique extrêmement massive que vous connaissez, tous les dispositifs d'action publique, d'action sociale. Et en face, vous avez évidemment une image issue du mouvement des Gilets jaunes, mais on pourrait prendre des images des mouvements contre la vie chère qui marquent les territoires ultramarins aujourd'hui même, qui témoigne et qui fait apparaître la prégnance et la massification de situations de vulnérabilité, de tension, d'impossibilité de considérer comme supportables les conditions matérielles d'existence dans lesquelles la population évolue. Et donc il y a évidemment une tension très forte entre, on va dire, la mesure objective du phénomène et ce qu'on pourrait appeler la mesure subjective, sociale, politique, qui fait apparaître un climat de tension extrêmement fort. Et pourquoi c'était important pour moi de vous dire que le travail sociologique doit être mis en situation, c'est que nombre de nos dirigeants raisonnent exclusivement à partir de la mesure objective qu'ils considèrent comme la seule forme de vérité sérieusement construite et à laquelle on va opposer une forme d'irrationalité de la population et d'effet peut-être d'accoutumance à un système d'État social ou de protection sociale trop généreux. Bref, la confrontation de ces deux images se traduit très souvent par la disqualification du point de vue de la population, quand bien même il serait majoritaire, au profit de la mise en valeur d'une forme d'objectivité qui renvoie à un tableau plutôt optimiste ou favorable de la situation en France. Et donc, si vous voulez, la rationalité implicite ou explicite de nombre de nos dirigeants quand ils construisent des politiques sociales, c'est finalement le mot de l'écrivain médiatique Sylvain Tesson, quand il dit « Les Français vivent au paradis et ils se croient en enfer ». C'est-à-dire que les Français expriment leur mécontentement, leur insatisfaction, protestent peut-être plus que leurs voisins, dans un cadre où, en apparence, les inégalités sont mieux contenues. Et donc il y a cette tension entre l'objectif, le subjectif, qui est particulièrement visible en France, parce que les taux de pessimisme qu'on mesure dans les grandes enquêtes européennes sur les valeurs sont très forts en France. Mais je pense que c'est très important de souligner que c'est également un problème qui se pose au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis. Dans les autres pays, on voit cet écart entre les mesures des opinions de la population et puis ce qu'on va pouvoir saisir à travers des fondamentaux de mesure des inégalités les plus installées, les plus ordinaires. Et donc, est issu de cette contradiction et aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'un ensemble de travaux empiriques que j'ai pu réaliser sur des statistiques au moment du mouvement des Gilets jaunes, enfin qui ont été publiées en même temps que le mouvement des Gilets jaunes, pour être plus exact. Il me semble qu'il y a toute une série de questions qui se posent aux sciences sociales, à la sociologie, à partir du constat de ce hiatus entre la mesure, on va dire, objective et la perception des inégalités. C'est d'abord, je viens de l'évoquer, le fait qu'il y a un problème social et politique à confronter et à résoudre cette tension, mais c'est aussi, je dirais, un problème disciplinaire. C'est aussi un problème pour les sciences sociales que de savoir comment ne pas exclure l'une ou l'autre des dimensions de la réalité dans la construction d'un cadre d'analyse. Donc il y a un enjeu disciplinaire, je dirais même interdisciplinaire, puisque comme vous l'avez sans doute saisi, les mesures des inégalités sont des mesures monétaires, sont des mesures qui dessinent une ligne, donc qui ne pensent pas de discontinuité dans la société, ce sont des mesures faites par les économistes. Et donc il faut que les sociologues entrent dans cette discussion avec les économistes pour pouvoir essayer justement de requalifier ce qu'on appelle inégalité. Donc il y a un problème disciplinaire, puis il y a un problème théorique. Comment est-ce qu'on fait pour articuler l'objectif et le subjectif dans tout travail de sociologie, tout travail de sciences sociales? C'est vraiment une question très, très, très banale, très simple, très fondamentale, très difficile aussi. Et c'est à celle-ci que le livre s'attaque à partir d'un ensemble de travaux. Alors, il me semble important aussi, et ça je pense que vous le savez, en tout cas vos enseignants et enseignantes vous y sensibilisent, tout travail, même un travail empirique d'enquête, se fait en relation avec la littérature sur le sujet, avec la littérature la plus actuelle, pour essayer de penser l'objet avec les bons cadres d'analyse et en tout cas en s'inscrivant dans une forme de cumulativité avec les travaux qui, sur un objet, sur une question, sont les plus pertinents. Et en l'occurrence, ce qui est très frappant, c'est que je ne suis évidemment pas le premier à me poser cette question de la confrontation de l'objectif et du subjectif. Il y a tout un ensemble, je dirais même, de traditions disciplinaires ou sous-disciplinaires qui, depuis une cinquantaine d'années, ont exploré centralement cette question. Et la première, c'est évidemment du côté de ce qu'on appelle l'économie du bonheur. Donc tous les économistes qui ont cherché à complexifier la vision de l'homo economicus, non, on n'est pas tous régis par des intérêts, même les économistes en sont conscients, et il y a tout un ensemble de travaux qui ont développé cette idée qu'il y avait dans la discipline économique une beaucoup plus grande palette d'émotions, d'orientations, de sentiments qu'il fallait pouvoir mesurer, traiter et établir un cadre théorique. Alors, très souvent, ces travaux se terminent quand même par dire qu'il y a une situation objective qui est comme naturalisé, et puis il y a des biais de représentation, des biais de perception de la population, et l'approche que je vais vous proposer s'inscrit vraiment en faux par rapport à cette vision qui consiste à dire que les gens ne savent pas où ils vivent, ne savent pas ce qu'ils sont et ne savent pas ce qu'ils font. Ensuite, vous avez d'autres travaux, et là il y a un ouvrage qui disciplinairement est difficile à situer, mais d'un auteur très important qui s'appelle Pierre Rosanvallon, un historien de la démocratie célèbre, et qui, il y a quelques années, en 2021, a proposé un livre qui s'appelle « Les épreuves de la vie ». Et en disant, de fait, post-mouvement des Gilets jaunes, les mesures traditionnelles des inégalités, les statistiques, et il commence comme ça son ouvrage, les statistiques ne disent pas la vérité de la vie sociale. Et donc il oppose, si vous voulez, il oppose la mesure avec les passions, les affects du corps social, et en se disant que peut-être que s'il fallait choisir entre les deux, il faudrait récuser la mesure, récuser l'objectivité au profit d'une politique structurée autour des affects qui traversent la société. Et là aussi, c'est une proposition très intéressante parce qu'elle pointe le problème et en même temps, elle le résout en opposant le subjectif, les affects d'un côté, et les intérêts de classe, et les rapports sociaux, et les conditions matérielles d'existence. Et là aussi, toute la démarche que je vais vous proposer, c'est simplement une manière de recoudre, de retisser ces deux dimensions en apparence opposées, finalement, du subjectif, du vécu, et des intérêts de classe, des intérêts des différentes catégories de la population inscrits dans des rapports sociaux asymétriques. Et enfin, évidemment, il y a tout un ensemble de travaux remarquables en sociologie ou dans nos disciplines proches qui étudient fortement la subjectivité, mais qui considèrent la subjectivité comme un ensemble de représentations qu'on peut avoir sur le monde social. J'ai telle caractéristique, telle propriété sociale, ça me définit, et j'ai par ailleurs des représentations sur le monde qui m'entoure, sur les pairs avec lesquels j'interagis, dans les différentes sphères de socialisation. Et si vous voulez, la thèse du livre se résume de manière très simple en disant que je soutiens qu'il faut prendre très au sérieux la question de la subjectivité, mais non pas parce qu'elle nous procurerait une information sur la représentation que les agents se font du monde social, parce que la subjectivité nous donne fondamentalement une information sur notre position sociale. C'est-à-dire, dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es, ou à quelle place tu te situes dans la hiérarchie sociale. Alors, dit comme ça, ça paraît extrêmement banal ou simple, mais en réalité, la thèse est à double plan, au sens où ce n'est pas simplement la subjectivité, c'est une dimension très précise de la subjectivité qui m'a intéressé dans cet ouvrage, qui donne le titre, « L'avenir confisqué », c'est de dire que dans la subjectivité, on va trouver au fond un critère, une dimension qui permet de saisir de manière synthétique la position sociale d'un individu. Et cette information, c'est la capacité subjective à se projeter dans l'avenir parce qu'elle dit quelque chose des ressources actuelles qu'on est capable de mobiliser pour construire sa vie, faire des projets, développer une carrière, etc. Et donc la thèse du livre est très simple, c'est de dire que l'horizon qu'on a de projection subjective dans l'avenir, mis en relation avec les conditions matérielles d'existence, nous donne une information synthétique sur la position sociale. C'est-à-dire nous donne une information qui permet au-delà, pour celles et ceux d'entre vous qui ont lu « L'homme pluriel » de Bernard Lahire, permettent d'aller au-delà d'une vision dans laquelle c'est la pluralité des formes de socialisation, des dispositions qui comptent. Donc c'est de retrouver dans le lien avec les conditions matérielles d'existence, finalement, ce qui fait l'unité d'un sujet et de sa projection dans l'avenir. Donc c'est une thèse double, prendre au sérieux ce que les gens disent, et quand on écoute les gens, s'intéresser prioritairement aux opinions qui concernent l'avenir, mises en relation avec les conditions matérielles d'existence. Et en se disant qu'en procédant ainsi, on peut déplacer, d'où la requalification des inégalités, on peut déplacer le raisonnement en termes d'inégalité vers un raisonnement en termes de continuum de sécurité ou d'insécurité sociale qui consiste dans simplement la plus ou moins grande capacité à maîtriser son avenir et que cette plus ou moins grande capacité à maîtriser son avenir en fait nous donne une information extrêmement utile, bonne à penser pour réconcilier la connaissance objective et la connaissance subjective du monde social. Alors, c'est une thèse qui a été élaborée, je dirais, de manière d'abord inductive, à partir de travaux de recherche ponctuels, portant sur des zones différentes de l'espace social. Et comme tu l'as dit, c'est très important, en essayant de s'affranchir d'un certain nombre de clivages disciplinaires, d'abord fondamentalement entre l'économie. Et vous le savez tous, c'est l'économie qui donne le « là » dans l'étude des inégalités. Il y a évidemment Thomas Piketty, qu'on connaît tous, et j'y reviendrai, mais il n'y a pas que lui. C'est cette discipline qui a forgé et qui a mis en avant la thématique des inégalités. Donc comment la sociologie peut répondre à cet extraordinaire progrès dans la mesure des inégalités que les économistes ont produit ? Au sein même de la sociologie, comment est-ce qu'on articule le qualitatif et le quantitatif de manière raisonnée ? non pas en se disant on va juste essayer de juxtaposer des savoirs, mais d'intégrer dans une même problématisation finalement les apports complémentaires de ce type de méthode. Et là aussi, j'essaierai d'en dire un mot. Et puis surtout, un point qui, moi, me semble extrêmement important au vu de l'extraordinaire morcellement des travaux dont on dispose en sociologie sur la structure sociale, sur les inégalités, de se dire qu'il y a un intérêt à avoir une grille de lecture transversale qui pose un critère qui peut se lire de haut en bas ou de bas en haut de la structure sociale, et donc un critère qui permet de penser le monde social dans sa verticalité. Et donc de donner une idée des écarts, des dynamiques entre les groupes. Et donc c'est avec à l'esprit ces questionnements théoriques ou épistémologiques, si vous voulez, que le livre a été construit autour non pas d'une enquête, mais d'un questionnement qui est comment est-ce qu'on élabore une connaissance de sciences sociales. Donc il y a une dimension épistémologique, quelles sont les conditions de production du savoir à laquelle il faut remonter dès lors qu'on est placé face à des gens qui vous disent les mesures les plus sérieuses dont on dispose montrent qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, comment répondre sérieusement à ça? Il faut se dire, il faut se poser quelques questions. Et donc une connaissance qui articule sans opposer l'objectif, le subjectif. Et c'est un livre, et là, voilà, j'encourage à commencer évidemment par écrire des articles qui reposent sur l'accumulation, si vous voulez, de travaux empiriques, ponctuels, qui ont été posés dans un certain nombre d'articles. Pardon, excusez-moi, n'hésitez pas à me dire si le PowerPoint va moins vite que... donc les trois croisements, le questionnement du livre, et donc trois articles qui portent sur le bas, qui se sent pauvre en France, que je vous ferai passer, un article sur la relation entre l'accumulation patrimoniale et la position de classe à l'échelle européenne, et puis une enquête ethnographique de très longue portée auprès d'un groupe de familles de la très grande bourgeoisie parisienne d'orientation catholique, donc une enquête ethnographique pour saisir la manière dont les très très riches se représentent leur propre avenir individuel, familial et collectif. Alors, je vais vous proposer, après cette longue mise en situation, une traversée de l'argument du livre, pour vous donner, si vous voulez, envie de le lire d'abord, c'est le plus important, j'aurais réussi ma mission, mais surtout, vous donner une idée de la dynamique de l'argumentation et de la manière dont le propos, avec encore une fois ce questionnement que je viens d'évoquer, passe, articule différentes formes de savoir. Alors, la première étape de la démarche, si vous voulez, a été d'essayer de donner, encore une fois, un fondement conceptuel à cette idée qu'il y a dans la projection subjective vers l'avenir une information synthétique sur la position sociale. Ce que j'ai résumé tout à l'heure, mais qui en fait ne va absolument pas de soi, notamment au vu de la richesse des travaux qui ont montré l'intérêt à différencier, à pluraliser la vision qu'on avait des acteurs sociaux, et notamment les travaux de Bernard Lahire. Et ici, encore une fois, l'enjeu, c'est de réinvestir dans la pratique de la sociologie tout un ensemble de savoirs constitué dans d'autres disciplines qui mettaient l'accent plutôt que sur la pluralité, sur l'unité. Et plutôt que dans la démarche de Bernard Lahire, l'idée qu'on va reconstituer par la complexification de l'extériorité des contextes de socialisation la singularité, je dis non, on va plutôt partir de l'intérieur pour connaître le monde social plutôt que d'essayer de très très bien connaître le monde social pour retrouver l'intérieur. Donc c'est une démarche inverse, si vous voulez, et une démarche qui trouve un fondement empirique extrêmement robuste dans la tradition de l'épidémiologie britannique qui s'est développée sous l'impulsion de Michael Marmot depuis les années 1970. Alors l'épidémiologie, on en a tous entendu parler pendant la crise sanitaire, on a l'impression de tous savoir ce que c'est. Les épidémiologistes, c'est des gens qui raisonnent avec des cohortes de plusieurs centaines de milliers de personnes et qui mesurent l'incidence de tel ou tel événement de santé, de telle ou telle prise de médicaments sur le devenir de la santé. Donc c'est des gens qui travaillent statistiquement avec, si vous voulez, une capacité d'objectivation et de démonstration extrêmement forte. Et un des acquis de cette tradition, c'est de montrer que si vous voulez prédire la plus ou moins grande détérioration de l'état de santé d'un individu dans les années à venir. Ce n'est pas la réponse qui va vous donner un questionnaire qui compte, c'est l'expression de sa position sociale subjective, ce qu'ils appellent le statut social subjectif. Et ils disent que c'est plus prédictif que la vision objective qu'on peut avoir de l'extérieur pour une raison simple, c'est que l'acteur fait une synthèse des critères qui sont simplement abordés de manière beaucoup plus superficielle en extériorité. C'est-à-dire que vous, on vous pose une question sur votre niveau de diplôme, dans un questionnaire, vous répondez. Mais l'acteur, si on lui demande quelle est ta position dans la hiérarchie des diplômes dans l'enseignement supérieur, il sait s'il a fait Polytechnique ou Paris 8, à l'intérieur de la cohorte des Master 2, si vous voulez. Et donc, il y a là une information qui est d'une plus grande finesse, d'une plus grande précision, et qui donc permet de saisir ce que ces épidémiologistes appellent une forme de synthèse cognitive. Synthèse cognitive qui donne, qui est encore une fois, qui donne une capacité de prédiction de la plus ou moins grande dégradation de l'état de santé à T plus 1. Et ce type de raisonnement a été démontré de manière tout aussi robuste sur une comparaison des positions de classe à l'échelle européenne par notre collègue suisse Daniel Hoesch, qui a montré que si vous vouliez prédire la capacité des individus à générer plus de revenus sur le marché du travail, ce n'est pas la position de classe objective qu'il fallait regarder, c'est la position sociale subjective qui est plus prédictive parce qu'elle intègre, encore une fois, une information d'une plus grande qualité, si vous voulez, ou d'une plus grande exhaustivité, d'une plus grande complétude. Et donc je pense que c'est ce type de démonstration, de savoir, en fait, représente un très très grand potentiel pour les sciences sociales, et d'autant plus, et je dois dire que c'est vraiment le paradoxe qui m'a intéressé le plus dans ce travail de recherche et qui donne son titre, le sous-titre d'ailleurs au livre, « Inégalité de temps vécu, classe sociale et patrimoine », c'est que, en quelque sorte, le subjectif, pourquoi est-ce qu'il parvient à cette richesse et à cette précision dans l'analyse de la position sociale ? Parce qu'il donne accès à une forme de quatrième dimension de la vie sociale que les enquêtes saisissent très mal, qui est le patrimoine, qui est la richesse accumulée, précisément parce que la richesse accumulée, c'est quelque chose qui va vous donner une plus ou moins grande capacité d'absorption des chocs, une plus ou moins grande capacité de projection dans l'avenir. Le patrimoine, c'est en quelque sorte la quatrième dimension cachée de nos positions sociales, et le subjectif la révèle parce que le subjectif nous donne accès au degré de sécurité qu'a un individu et degré de sécurité qui est indexé sur ses ressources patrimoniales. Et donc, si vous voulez, là, on rejoint des questionnements à la fois anciens, ceux de Robert Castel sur l'importance de la propriété dans l'avènement de l'individu, et des raisonnements extrêmement contemporains, comme ceux de nos collègues Céline Bessière et Sybille Golac, qui, dans le genre du patrimoine, montrent que si on veut vraiment étudier les inégalités femmes-hommes, il faut prendre en compte cette question du patrimoine et ne pas s'arrêter à l'écart de revenus qu'on peut constater sur le marché du travail. Il faut prendre en compte cette espèce d'effet de très longue portée du patrimoine sur la plus ou moins grande capacité qu'on a à se projeter dans l'avenir. Et encore une fois, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le patrimoine est beaucoup plus inégalitairement distribué que les revenus. Et donc, c'est une mesure qui va réintroduire, encore une fois, de la verticalité dans la représentation de l'espace social, alors que, paradoxalement, les sociologues avaient, pendant des années, laissé de côté cette question qui était très largement l'apanage des économistes. Alors, je vais avancer en disant qu'il y a évidemment des sociologues qui ont posé ces questions, qui les ont travaillées, mais je voudrais juste faire une petite digression ou un détour pour dire que le choix que j'ai fait, choix contesté par ailleurs par des collègues, et je les en remercie, choix contestable, et j'en suis parfaitement conscient, a été de dire, pour une raison que j'expliquerai tout à l'heure, que je me suis focalisé sur la question des rapports sociaux de classe. Mais simplement, alors évidemment c'est un choix compliqué, parce qu'on pourrait dire la classe n'apparaît qu'en interaction avec le genre, l'appartenance ethno-raciale, etc. Mais j'essaierai de vous donner des éléments de justification de ce choix difficile tout à l'heure. Mais un point qui me semble très important, c'est de dire qu'il y a des parallèles, il y a des transpositions qui peuvent être faites avec des travaux, notamment ceux de Marilyn Lieber sur les peurs des femmes dans l'espace public, qui font appel à ce type de variables. ou des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus fondamentales. Alors, j'ai peur de dire ça parce que Milena est là, donc il y a des spécialistes de l'objet, mais quand je regarde les résultats de l'enquête Trajectoires et origines, donc les enquêtes sur les discriminations dont on dispose dans la statistique publique française, presque les seuls, les articles qui font le comparatif entre TO1 et TO2, sous ton contrôle, disent que la seule chose qu'on peut mesurer d'une vague à l'autre, c'est pas l'augmentation des discriminations, c'est l'augmentation du sentiment de discrimination, donc de variables éminemment subjectives, dans laquelle il est très difficile de faire la part de l'augmentation des traitements défavorables que subit un groupe et l'augmentation du seuil de sensibilité à des traitements qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas codés comme tels. C'est-à-dire que si vous voulez faire avec les informations que vous avez dans le débat public et dans nos disciplines, en fait, il faut prendre très au sérieux cette caractéristique subjective des informations qui nous sont données. Je vous passe le parallèle avec la température ressentie, avec la météo, mais on pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez, dans la discussion. Et donc, l'idée, c'est vraiment de retravailler la question de la position de classe sociale à l'aune de ce questionnement sur la subjectivité et l'objectivité. Alors, troisième étape du raisonnement, c'est l'idée de dire, et là, pour le coup, je pense que les sociologues se sont désintéressés en partie, je dis bien en partie parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, et notamment dans les années récentes, se sont un petit peu désintéressés de cette question du fait de l'importance totalement légitime et compréhensible des travaux de Pierre Bourdieu dans l'analyse de l'espace social, des inégalités de classe, de la position sociale, et de l'importance que Pierre Bourdieu donnait aux dimensions culturelles du capital. Tout simplement, on s'est beaucoup intéressé à ces dimensions culturelles du capital en sociologie pour travailler, encore une fois, les modes de vie, les représentations de soi, les pratiques culturelles, tout cet ensemble de critères que Pierre Bourdieu, de manière extrêmement novatrice, avait inscrit dans notre analyse des inégalités et des classes dans ses travaux les plus connus, la distinction ou sur le système éducatif, en mentionnant le rôle, encore une fois, de validation du capital culturel par le système éducatif. Et simplement, et là pour le coup c'est vraiment un effet d'immersion, si vous voulez, dans le monde de l'expertise d'État, on voit du côté de l'INSEE, du côté de beaucoup d'agences, des travaux qui essayent de modéliser, de mesurer le ressenti, la subjectivité, et qui vont trouver en fait un écho et en quelque sorte leur épistémologie, la vérité du travail qui est fait aujourd'hui se trouve dans des travaux plus ancien de Pierre Bourdieu, plus récent, à une époque qu'on a un peu oubliée, ou peut-être un petit peu délibérément laissée de côté, quand Pierre Bourdieu était quelqu'un qui travaillait dans l'appareil d'État, avec l'INSEE, jusqu'en 1966. Bourdieu est un agent de l'expertise d'État, il travaille avec l'INSEE. En 66, il organise un colloque sur les Trente Glorieuses, qui est un colloque dans lequel on fait de l'évaluation de l'effet des allocations familiales. Alors simplement, comme c'est Bourdieu qui le fait, c'est fait avec déjà ce questionnement sur l'articulation de l'objectif et du subjectif et l'enjeu de la temporalité à l'esprit. Et donc, il y a, si vous voulez, toute une première période des travaux de Pierre Bourdieu, que j'ai appelé Bourdieu avant Bourdieu, pour me fâcher avec mes collègues, qui, et ça a réussi, hein, je vous rassure, ça alimente la machine, toute une série de travaux que je n'isole pas du reste, mais qui ont quand même une série de propositions extrêmement intéressantes, parce que Bourdieu nous donne des outils pour penser la manière de mesurer ce continuum de sécurité et d'insécurité sociale. Bourdieu nous dit, notre travail en sciences sociales, c'est objectiver le différentiel de sécurité que des salariés vont avoir selon leur niveau de revenu, selon leur position dans la hiérarchie professionnelle, selon les ressources matérielles. Et Bourdieu nous dit, par exemple, quelque chose de très simple au sujet des travailleurs en Algérie. Il nous dit, quand vous passez le seuil de 2000 francs, à l'époque, en Algérie, en fait, vous rentrez dans un monde où vous passez de la survie au jour le jour à un monde où vous pouvez commencer à faire des projets, à essayer d'épargner pour acheter un logement, à faire des études à vos enfants. Bref, vous avez des paliers de revenus, des paliers économiques qui se traduisent par des conversions de vos dispositions dans une attitude différente vers l'avenir. Et donc Bourdieu nous donne des outils pour penser comment on franchit des seuils et comment ces seuils ont des effets à la fois objectifs et subjective. Et il se trouve qu'une collègue économiste, Éléonore Richard, a montré, à partir des enquêtes les plus robustes dont on dispose, qu'on peut mesurer l'existence de tels seuils, de formes de discontinuité, à partir desquelles on bascule dans des formes de survie quotidienne, de pauvreté objective et subjective. Donc c'est très efficace et c'est très à jour en termes épistémologiques. Et puis, en fait, Bourdieu nous fait une proposition peut-être un peu plus radicale que ça, notamment dans un article qu'on peut presque lire, relire et apprendre par cœur, « Avenir de classe et causalité du probable » en 1974, dans lequel, étudiant le cas de la petite bourgeoisie, Bourdieu parvient à cette formulation absolument radicale qui consiste à dire, en fait, ce n'est pas le présent ou le passé qui détermine le futur, comme on le pense souvent avec Bourdieu, on est déterminé par notre passé. Non, il dit c'est la manière dont on appréhende le futur qui détermine notre présent. Nous ne sommes pas tout entiers à nous-mêmes dans le présent. Si on fait juste la somme de nos caractéristiques, de nos propriétés sociales, il manque ce caractère non seulement déterminé, mais déterminant de la projection dans l'avenir qui assure notre capacité à maîtriser notre environnement. Et donc, Bourdieu raisonne déjà en termes de sentiment de sécurité. C'est explicite, les formules sont chez lui. Et je le cite, c'est tellement énorme, Bourdieu dit « les économistes devraient travailler le revenu vécu ». Exactement ce que fait l'INSEE sur l'inflation depuis le passage à l'euro. Donc il donne en quelque sorte la boîte à outils et il nous permet de penser en sociologue toute une richesse d'informations qui se déploie sur le monde social. Alors pour pouvoir en faire étage, j'avance vers de la construction théorique à l'opérationnalisation empirique, si vous voulez, de ces questions. Et je vais essayer d'apporter un élément de réponse pas totalement convaincant, y compris à mes propres yeux, sur la question de l'intersectionnalité. Et c'est de dire que pour mettre à l'épreuve empiriquement cette question, pour mesurer le différentiel de sécurité qui définit la hiérarchie sociale, et pour pouvoir apporter une réponse à celles et ceux qui disent que tout va bien ou tout va mal d'ailleurs, il faut prendre au sérieux, dans l'analyse des inégalités, ce qu'on pourrait appeler un grand mouvement d'individualisation culturelle et normative qui traverse les sociétés développées depuis une cinquantaine d'années. C'est celui-là même dont parlait Castel dans son dernier livre sur la montée des incertitudes. Ulrich Beck, Anthony Giddens ont travaillé en profondeur ce mouvement qui, en fait, redessine la manière dont on se perçoit, on se comprend les uns ou les autres dans notre vie sociale. Et simplement, en général, quand on mobilise ces questions, cette idée qu'il y a une forte individualisation, c'est pour dire, regardez, il n'y a plus de classe sociale. Et en l'occurrence, là, l'idée, c'est au contraire de dire, prendre au sérieux cette individualisation, le fait qu'on est chacun contraint de faire des projets pour soi, pour sa famille, à titre individuel, nous oblige à repenser la manière dont on envisage les classes sociales, à se donner d'autres outils et à aller essayer de comprendre finalement comment cette grande forme d'appartenance se redéploie aujourd'hui et comment elle produit des effets. Et quand on pense les classes sociales, en fait, on est déjà obligé de faire un travail en quelque sorte intersectionnel à l'intérieur de ce seul rapport social de la classe. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'intersectionnalité, c'est de dire je croise classe, genre, race, situation de handicap ou autre rapport social asymétrique et de domination. Mais de manière beaucoup plus terre-à-terre, si vous voulez essayer de décrire la hiérarchie des classes aujourd'hui, vous avez deux ensembles de travaux, un du côté des économistes, un des côtés des sociologues, et qui résonnent avec des critères qui sont différents et qui sont même en partie opposés, puisque les économistes ont une ligne de distribution du monde social et les sociologues introduisent de la discontinuité à partir des rapports de classe. Et donc, quand vous êtes confronté à ça, il y a un problème scientifique, épistémologique. C'est quoi une classe sociale? Comment on la définit? Et comment on fait avec cette absurdité d'avoir deux langages pour décrire la même réalité, alors que ces deux langages nous apportent chacun, une richesse, une mine d'informations. Et donc concrètement, le tableau, quand vous étudiez, vous dites qu'est-ce que c'est que les classes sociales aujourd'hui, vous avez affaire à une description économique, Piketty. Les classes supérieures, c'est les 10% les plus riches. Les classes moyennes, c'est le 40% au milieu. Et les classes populaires, c'est les 50% les plus pauvres. on raisonne à partir des critères du niveau de vie, des revenus ou du patrimoine. Et puis, vous avez la manière sociologique de travailler avec des nomenclatures qu'on connaît, les CSP, les PCS, puis la nomenclature ESSEG, stabilisée au niveau européen, qui résonne avec finalement l'appartenance socio-professionnelle comme critère synthétique. Et en fait, devant cette complexité, le raisonnement qui est tenu dans les différents papiers que j'évoquais et dans le livre, c'est de croiser ces informations pour affiner la représentation des positions et de la hiérarchie des classes, pour simplement injecter la temporalité vécue dans cette représentation très statique du monde social. Et donc, concrètement, en termes empiriques, ça veut dire proposer des indicateurs, des mesures qui permettent de saisir cette gradation des capacités à se saisir de l'avenir. Et la première, la plus évidente, alors tout ce que je viens de vous raconter là est en fait en partie le débouché d'un travail empirique ponctuel dont j'essaye de tirer toutes les conséquences, c'est d'abord sur la question de la pauvreté, au moment du mouvement des Gilets jaunes, qu'avec mon collègue Adrien Papuchon, on travaillait laborieusement, silencieusement, sur des bases de données du ministère. Et puis, on publie un petit article dans la Revue française de sociologie qui paraît en novembre 2018 au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et en gros, pour la statistique publique, pour les pouvoirs publics, la pauvreté en France, c'est essentiellement des chômeurs, des familles monoparentales ou nombreuses, des jeunes, des moins qualifiés. Et nous, on fait semblant de ne pas savoir ce qu'il y a dans ces mesures objectives. Moi, je fais semblant de pas savoir que Serge Pogam ou Robert Castel ont écrit des livres. Donc, on fait comme on fait en science, on fait l'idiot. Et on essaie de se dire, qui se sent pauvre en France? On a un échantillon représentatif de la population. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce camembert qui fait apparaître que presque 40% sont des gens qui sont en emploi. Les gens qui se sentent pauvres en France sont des gens en emploi, parfois en emploi stable, des petits indépendants, des retraités. Bref, la constellation des Gilets jaunes qui exprime une incapacité à penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qui exprime une très très grande forme de souffrance, quand bien même elle ne se reflète pas dans les mesures conventionnelles de la pauvreté. Et c'est à partir de ces résultats qu'on a commencé à creuser, à regarder et à identifier ce à quoi nous donnait accès cette vision subjective de la pauvreté. Et ce qu'on voit, par exemple, vous le voyez dans le 21%, c'est les retraités locataires qui se sentent pauvres. Et là, si vous voulez, ça vous donne la traduction spontanée du phénomène. C'est qu'un retraité locataire, un retraité, il n'est pas pauvre. Sa pension le place au-dessus du seuil de pauvreté. C'est pour ça qu'il y a relativement peu de retraités pauvres en France. Mais si les locataires et si ses charges locatives augmentent plus vite que sa pension, évidemment, il se perçoit dans un étau. Sa situation va se dégrader de manière irréversible. Et c'est exactement ça, le sentiment de pauvreté. Ce n'est pas la difficulté là maintenant, c'est le fait de se projeter de manière négative dans sa propre situation future. Et donc, si vous voulez, c'est le hiatus entre les projections qu'on peut faire, les aspirations qu'on a, qui redéfinit la pauvreté. Et ensuite, fort de ce premier résultat empirique, on a essayé de le déployer sur l'ensemble de la structure sociale, en opérant une relecture de Piketty sur un point fondamental, qui est qu'on s'est dit, il y a dans cette vision temporalisée et tournée vers l'avenir, matière à penser quelque chose sur lequel Piketty, à travers ses travaux sur les inégalités, a donné beaucoup d'éléments, et en même temps, s'est arrêté, si vous voulez, au milieu du guet. Parce que Piketty nous dit quelque chose de deux choses très simples, dont il ne tire pas les conséquences lui-même. Ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça avec les grands auteurs, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on peut aller chercher chez eux. Piketty, on le connaît pour avoir mis en avant l'importance des super-riches, des très fortunés, des très gros patrimoines et des très gros salaires. En fait, ce que dit Piketty, c'est quelque chose de beaucoup plus sociologique. Il dit la grande mutation structurelle des sociétés occidentales au XXe siècle, c'est l'avènement d'une classe moyenne patrimoniale. C'est 40% du milieu qui ont pu accéder à la propriété. Et quelque part, mais il faut aller le chercher un peu, page 812 de son deuxième livre, Capital et idéologie, il nous dit, mais le patrimoine, la richesse, ça compte pas en tant que tel. C'est pas parce qu'on en accumule beaucoup que c'est important. c'est parce que le patrimoine nous donne du pouvoir sur notre propre temps et du pouvoir sur le temps des autres. Un exemple très simple, vous payez un loyer, votre temps salarial qui est consacré à gagner l'argent que vous versez en loyer est en fait du temps qui est transmis et qui rend possible l'accumulation patrimoniale de votre propriétaire-bailleur. C'est ce type d'échange très diffus dans la structure sociale, mais très asymétrique, qui apparaît à l'aune de mesures qui vont chercher à remettre de la dynamique et à croiser les positions de classe telles que les sociologues les définissent avec les acquis de l'économie. Et donc ça veut dire que les problèmes sociaux, on les pense autrement, on les pense non plus comme des problèmes de situation matérielle de dénuement, simplement, mais comme des problèmes de disjonction entre des aspirations qu'on a constituées et les conditions de possibilité de les réaliser. Et un exemple très simple, les jeunes issus de catégories populaires ou moyennes ont vu, pour une partie d'entre eux, leurs parents accéder à la propriété et sont face à un mur pour entrer dans la même trajectoire d'accumulation et réaliser, entre guillemets, le programme familial. Et ce type d'analyse, on peut leur donner des éléments d'objectivation. Alors je vais pas rentrer là-dedans parce que je voudrais garder un tout petit peu de temps pour l'enquête sur la philanthropie, mais on a croisé les critères en essayant de montrer combien d'années de réserve patrimoniale avaient les membres des différents groupes de classe tels que les sociologues les définissent. Donc on a simplement croisé les deux nomenclatures que j'évoquais tout à l'heure pour essayer de mesurer l'importance des réserves patrimoniales rapportées aux revenus. Donc un indépendant, même s'il gagne 100 000 euros par an, si vous voulez, va avoir 5 fois plus de patrimoine accumulé que de revenus. Et donc cette proportion va être beaucoup plus basse chez, par exemple, les employés, les ouvriers, quand bien même le salaire de base est moins haut. Donc si vous voulez, ça donne une vision très, très conservatrice, très minimaliste des inégalités, mais ça permet de croiser les deux critères. Et plus important, on a essayé de différencier par âge. Et ça aussi, c'est quelque chose que Piketty, qui le sait parfaitement, puisque Modigliani a eu un prix Nobel d'économie en disant « Le patrimoine, c'est très simple, vous partez, vous commencez votre vie, vous n'en avez pas, vous accumulez dans votre vie, et puis quand vous passez à la retraite, vous commencez à dépenser pour vos enfants, pour votre dépendance. » Et donc Piketty a dit « Je laisse tomber cette question du cycle de vie, mais nous, elle nous intéresse beaucoup, évidemment. » Parce qu'elle va montrer, on va montrer les formes d'accumulation par âge, et on va montrer que les catégories populaires, ouvriers, employés, vieillissants, ont pu accumuler. Et donc, la forme de tension qui émerge, c'est ce décalage entre les aspirations que donne la société, tous propriétaires, comme disait Anne Lambert, par exemple, et les conditions de possibilité de leur réalisation pour certaines catégories. Et enfin, c'est vraiment, là pour le coup, c'est très injuste pour ce chapitre 6 qui en fait restitue une enquête de terrain de très longue portée sur le monde des familles de la grande bourgeoisie qui ont créé leur propre fondation philanthropique. Donc, j'aurais juste l'aborder à l'aune du questionnement général du livre et sans entrer dans le détail de l'enquête ou de l'argumentation, mais juste de dire qu'étant donné la problématique, il était extrêmement insuffisant de simplement considérer que l'avenir confisqué, c'est simplement une manière de requalifier les situations de pauvreté ou de halo de la pauvreté dans les catégories populaires par l'incapacité à se projeter positivement dans l'avenir. Parce que, souvenez-vous de l'exemple du propriétaire-bailleur qui achète le temps salarial de son locataire. En fait, l'avenir confisqué, c'est aussi un processus, c'est un mécanisme par lequel les catégories dominantes sont en capacité d'acquérir de la maîtrise sur leur propre vie à travers ces projections et investissements dans l'avenir. Les exemples les plus simples, c'est de dire, quand vous êtes devenu très riche, vous achetez la propriété d'un certain nombre de titres de presse pour faire en sorte que vos intérêts soient préservés. Ça, c'est un peu grossier, c'est un peu caricatural, donc, enfin, même si c'est vrai. Mais disons que l'idée, c'était de prendre la partie la plus sympathique, la plus généreuse, la mieux orientée des élites, celle qui s'adonne à des activités philanthropiques pour le bien commun, pour l'intérêt général, et de comprendre comment ces investissements philanthropiques, en fait, permettaient de faire cette liaison entre l'objectif et le subjectif. Et pour une raison très simple, d'abord, c'est que, vous le savez, les milieux les plus élitistes, c'est des milieux qui sont très difficiles d'accès. Les gens ferment les portes, ce qui est normal, ils se protègent. Par contre, ils parlent beaucoup de ce qu'ils donnent. Et ils donnent en pensant à leurs enfants, en pensant à tout un tas de choses qui donnent des informations sur leur vie. Et donc, c'est une très bonne voie d'accès empirique, un peu oblique, je le reconnais, mais néanmoins très efficace pour entrer dans leurs préoccupations. Et par ailleurs, il y a tout un secteur d'études sur la philanthropie qui montre, à partir d'enquêtes quantitatives très sérieuses, que donner, ça fait du bien. Ça fait du bien à celui qui donne, ça fait du bien à celui qui reçoit. Bref, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène Royal, la pensée magique du monde social, tout le monde y gagne. Mais à l'intérieur de ça, il y a un constat simple, c'est que donner, ça procure de la joie, ça procure des émotions positives, et moi, je l'ai entendu dans mes enquêtes auprès des très riches familles avec qui je dialoguais, donner, ça leur donne une forme de joie. Elles ont travaillé toute leur vie dans le privé, elles ont gagné beaucoup d'argent, et elles ont des valeurs, en l'occurrence catholiques, mais elles pourraient être protestantes ou d'autres confessions, et en fait, la philanthropie, ça leur permet de réunir leurs ressources et leurs valeurs. Ça leur donne une joie et un sentiment d'utilité profond. Et en même temps, quand je regarde les sciences sociales qui pensent cette question, c'est de la reproduction pure des inégalités, c'est juste un vernis de légitimité qu'on met sur sa richesse. Objectif et subjectif. Et en fait, je pense que la question du rapport au temps et d'aborder l'acte philanthropique par le rapport au temps permet d'assurer la liaison entre ces deux lectures. Donner, tel que ça apparaît dans l'enquête, c'est une manière de donner de la cohérence à sa propre vie. C'est une manière, parce que les dons sont associés à la famille, c'est une manière d'assurer la transmission intergénérationnelle. J'ai une enquêtée qui m'a dit, vous savez, mes enfants sont des héritiers. Comme si elle avait lu Bourdieu. C'est des héritiers mobiliers, c'est des héritiers immobiliers, c'est des héritiers éducatifs, ils auront tout notre réseau social, c'est des héritiers totaux. La fondation philanthropique qu'on crée, c'est pour rajouter une dimension de cet héritage, qui est un héritage spirituel, de valeur. Si vous ne voulez pas donner, il faudra que vous fermiez la fondation. Ce sera un geste, vous aurez choisi de ne pas rendre à la collectivité quelque chose. Donc, si vous voulez, ça fait vraiment partie du package patrimonial et d'héritage. Donc ça sécurise la transmission intergénérationnelle du patrimoine. Et enfin, ça se fait avec nos impôts, puisque c'est 75% d'argent qui est déduit sur l'ISF. Et donc, le point important, ce n'est pas de chicaner sur la défiscalisation de ces dons, c'est de dire quelque chose de beaucoup plus important, c'est qu'à travers cette défiscalisation, l'État assure deux choses. La satisfaction des plus gros contribuables, ça Alexis Spire l'a montré, les plus gros contribuables sont aussi les plus satisfaits du système fiscal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette relation personnelle. Ils peuvent individualiser leur impôt. On a même eu quelqu'un qui a dit « il faut pouvoir donner sa marque à l'impôt ». C'est la préoccupation de ces agents. Et par ailleurs, ça leur donne une voix sur les choix collectifs, peut-être pas la définition des politiques publiques, mais le cadrage des problèmes dont la société doit s'occuper par des politiques publiques. Et donc l'idée, dans l'ouvrage, c'est vraiment de considérer que la subjectivité est un révélateur des positions et des rapports sociaux, des formes d'asymétrie qu'on observe, avec la projection dans l'avenir, comme critère synthétique, si vous voulez, et transversal d'analyse, et en se donnant comme, si vous voulez, enjeu de croiser les savoirs qui sont produits par différentes disciplines pour cette analyse relationnelle des rapports sociaux de classe. Je vous remercie.
Merci.